Bataille, procès du Chambard, plaidoirie de M. Jaurès, démission de M. Casimir Perrier. Paris, 6 novembre 1894. Audience à sensation aujourd'hui lundi à la cour d'assises de la Seine. M. Jaurès, il faisait ses débuts à la barre. Le jeune tribun socialiste avait obtenu, bien qu'il ne soit pas avocat, l'autorisation de présenter la défense de M. Géraud Richard, rédacteur d'un petit journal satirique, le Chambard, poursuivi pour offense au président de la République. C'est la première fois que la personnalité de M. Casimir Perrier était mise en cause devant le jury. Le Parti socialiste n'a pas manqué cette occasion de porter sur le terrain judiciaire la guerre qu'il a déclarée au successeur de M. Carnot et la harangue que son orateur le plus véhément a prononcée aujourd'hui est moins une plaidoirie pour le journaliste déféré à la cour d'assises qu'un réquisitoire violent et passionné contre le président de la République et sa dynastie bourgeoise. Je n'ai pas à apprécier ici le talent de M. Jaurès. On connaît sa fougue, sa merveilleuse faculté d'improvisation, ses trouvailles de mots et d'idées. Il est passé maître dans l'art d'arrondir la phrase. Mais il ignore la mesure, les nuances. Son sujet l'entraîne au-delà du but. Et si certaines périodes de belle allure ont pour un instant transporté la salle, le caractère excessif de sa plaidoirie a plus d'une fois froissé l'auditoire et finalement indisposer le jury. Au surplus, le ton de l'article poursuivi ne lui rendait pas la tâche précisément facile, et ces très courtes citations permettront à mes lecteurs de s'en convaincre. Casimir Perrier a raison de haïr le peuple. Rarement il aura fait un placement plus avantageux, car la haine lui est rendue au centuple. Cela ne peut que flatter les instincts atavique d'un petit-fils d'un usurier. Sa vive, si vive l'inquiétion de son impopularité, qui ne se montre aux foules qu'enveloppé d'escadrons, épais à travers les grilles d'acier des sabres, couverts à l'arrière et à l'avant d'opaques nuées de mouchards. « Oh, le vilain moineau !» s'écriait le passant. « Sale tête !» disait entre deux sifflets de Gavroche. Ses fumisteries de sous-off dans les magasins où il pratique l'évanouissement sur de timides demoiselles n'ont pas plus réussi à le faire aimer que ses transports finaux envers une antique nounou. Sa haine va redoubler. Il se rappellera l'exemple de son aïeul, celui qui, trafiquant de la France, édifiait une fortune colossale sur de colossales trahisons. Lorsqu'il jugera inutile ses comédies de sentiments, sa belle nature de dévorant reprendra le dessus. Avec son arrogance brutale d'exploiteur, sans pitié ni noblesse, sans entrailles ni âme, il est l'image fidèle et repoussante d'une caste sanguinaire dont la prospérité a pour étrage la mortalité des travailleurs. Titre de l'article « À bois Casimir !» À l'audience, M. Géraud Richard en a revendiqué toute la responsabilité légale. « M. Casimir Perrier, dit-il, n'est pas Louis XV, XIV. Il appartient à la discussion, et lui-même l'a rappelé en des termes journalistes qui le félicitaient de son élection. « Je vous appartiens, messieurs. » Discuter ma personne et mes actes. J'ai eu tort de croire à la parole présidentielle. J'ai discuté la personne de M. Casimir Perrier, et je suis ici. Il ne reste plus qu'à le conduire à Reims et à le coiffer de la perruque du roi soleil. M. l'avocat général Mérillon, dans son réquisitoire, commence par rendre hommage au talent de M. Jaurès. « Si les jurés, s'écrit-il, étaient un arrière-page appelé à juger un tournoi oratoire, Je ne me leurrerai même pas. Je vous inviterai, messieurs, à décerner la palme à l'adversaire brillant que j'ai devant moi. Mais il ne s'agit pas ici de l'éloquence. Il ne s'agit même pas de la personne de M. Casimir Perier qui est au-dessus des attaques comme des éloges. Il s'agit du chef de l'État dont on essaie d'amoindrir la fonction par un système d'injures bien faites pour éloigner les meilleurs citoyens des affaires publiques. Est-ce une allusion à la démission possible du président de la République en cas d'acquittement du journaliste poursuivi? On vous a reproché, messieurs, ajoute l'organe du ministère public, d'avoir voulu, par certains verdicts récents, vous poser en réformateur de la loi. Mais la loi, cette loi sur l'offense au président de la République, cette loi que M. Goblet lui-même a votée, je suis bien sûr que vous l'appliquerez. Le chef de l'État, mais aux yeux de l'étranger, c'est la France elle-même. Quelle autorité voulez-vous donc qu'il conserve si son nom est chaque jour couvert d'injures et de discrédits? Les socialistes ne se sont jamais attaqués à l'empereur de Russie. Ce souverain absolu, il n'a cependant jamais donné aucune liberté. Ils ont obéi à un sentiment patriotique, et je les félicite de leur silence. Et pourquoi ce même sentiment ne leur impose-t-il pas le devoir de laisser le chef de l'État en dehors de nos discussions? M. Jaurès a la parole. Il commence par remercier M. le Président Gourlet de la lui avoir donnée. Et, dit-il, bien qu'il ne lui doive rien en retour, il se fera une loi de garder toute la modération compatible avec sa tâche. Mais, ajoute le jeune orateur, ce procès n'a rien de judiciaire. Je ne porte pas plus la robe que vous-même, messieurs les jurés. C'est un débat politique que vous avez à juger. Voyons donc l'article de M. Géraud Richard. M. le Président de la République se fâche parce qu'on l'a appelé Casimir. Mais ces journalistes officieux n'ont-ils pas tenté d'expliquer le silence des populations sur son passage par la difficulté qu'éprouvaient les plus enthousiastes à crier « Vive M. Casimir Perier !»« Le nom est trop long, disait-il, et le peuple perdrait haleine à l'acclamer. » D'ailleurs, ce prénom de Casimir, le chef de l'État ne l'est-il pas incorporé lui-même à son nom pour que l'orléanisme avide et autoritaire ait eu sa marque? M. Géraud Richard a crié « À bas Casimir !» c'est-à-dire « Vive la République des travailleurs !» décidé à précipiter la chute d'un homme porté au pouvoir par la réaction. M. Jaurès, revenant sur un passage de l'article poursuivi, ne refuse pas à M. Casimir Perier le droit de prendre certaines précautions contre les anarchistes. « Nul plus que nous, s'écrie-t-il, ne réprouve, ne flétrit les abominables attentats que je n'ai pas besoin de rappeler. Nous sommes de ceux qui refusent à la société le droit de tuer. Nous dénions à plus forte raison ce droit à celui qui, dans son orgueil, sa haine ou son égoïsme, s'érige en justicier. » Comme si un homme pouvait à lui seul se faire le meneur de l'histoire. Voilà pourquoi nous préparons la révolution, non contre les hommes, mais contre les actes. Nous disons aux exploités, ne haïssez pas les hommes, ils ne sont que des instruments, que le produit d'un état social déterminé. Nous ressentons une profonde pitié pour tous, y compris les privilégiés, qui portent si hardiment le poids de leurs privilèges. Donc, j'admets les précautions indispensables contre le meurtrier qui peut toujours s'élancer du coin d'une rue. Mais, si grande soit-elle, il y a toujours une heure, un moment, où la communication des cœurs devrait abaisser les barrières entre le chef de l'État et le peuple. Cette heure d'enthousiasme, M. Casimir Perier ne l'a pas encore fait naître. Pour lui, elle ne viendra jamais. Il est condamné à traverser ses 7 années de magistrature républicaine entre 2 haies de cuirassiers. Monsieur Jaurès défend son client d'avoir voulu attaquer Monsieur Casimir Perier, soit comme homme privé, soit comme homme politique. Comme homme politique, il n'existe pas. Il n'est qu'un nom, une tradition, un symbole. Quels sont les services éclatants qu'il a rendus à la République? C'est son nom seul, synonyme de gouvernement, de réaction et de combat, qu'il a porté au pouvoir. Le haut capital, terrifié par les scandales qui pullulent en lui comme dans un organisme décomposé, est allé le chercher pour qu'il endiguât la démocratie grandissante des ouvriers et des paysans. Oui, c'est bien l'homme qu'il fallait aux improbités menacées. Un nom monarchique porté par un homme dont les aïeux ont édifié leur fortune en spéculant sur les souffrances des ouvriers et qui allait devenir à son tour instrument servile du capital. Lui-même, déjà, s'était façonné par son corporalisme parlementaire quand il présida la Chambre à la manière du grand aïeul. Vous le voyez bien, messieurs, nous ne sommes pas en face d'une personnalité, mais en face d'une tradition figée et diminuée, la tradition larmoyante et hautaine du grand despotisme bourgeois. Monsieur Jaurès va maintenant passer en revue la dynastie des Casimir Perrier, depuis le grand-père, le bisaïeul. Il le fait avec une violence rare, et le parti pris que nous signalions tout à l'heure comme une des causes de son échec. À l'époque de la Révolution, il se forma deux partis dans la bourgeoisie. D'une part, la bourgeoisie généreuse, nourrie de l'encyclopédie, aspirant à fonder une société nouvelle avec l'égalité et la solidarité pour base. Et c'est de cette bourgeoisie qu'est né le parti républicain. C'est elle qui a fait la glorieuse journée de 1830, et le peu qui en reste aujourd'hui, après d'innombrables faillites morales, va se confondre de plus en plus avec le prolétariat grandissant et organisé. Et en face d'elle, la bourgeoisie vaniteuse, égoïste, avide, qui préparait aussi les révolutions, mais qui la préparait pour elle, pour la satisfaction de sa vanité et de ses intérêts de caste. Elle voulait bien supprimer la noblesse, mais pour la remplacer. C'est à cette bourgeoisie-là qu'appartenait Claude Perrier, le premier du nom, le roturier, qui acheta le château du Vizille d'un grand seigneur ruiné et qui comptait sur une charge au Parlement de Grenoble pour s'ennoblir. Si, plus tard, terrifié par l'orage qui grondait, il a ouvert son château de Vizille aux assemblées qui ont préparé les états généraux, il n'en est pas moins demeuré fidèle aux traditions de sa race, de traitant, aux habitudes de cette bourgeoisie qui ne sait s'enrichir que petitement. Il a continué d'opprimer les ouvriers de ses fabriques, pauvres gens qui n'avaient pas été appelés, eux, à l'assemblée de Vizille, et qui, après les cahiers des trois ordres, avaient été réduits à rédiger bien humblement ce qu'ils appelaient les cahiers des pauvres, car ils ne savaient pas encore qu'ils étaient capables de faire des révolutions. Telle fut la première rencontre du sordide et cruel avare avec la démocratie. Sous l'Empire, Claude Perrier se fit fournisseur des armes. Il enfle sa fortune avec les mines d'Anemont. D'Anzin, il entre à la Banque de France, dont il rédige les premiers statuts. Il achète des bois au rabais, ouvre ses guichets d'ouvriers, d'usuriers aux négociants ruinés, dont il accapare à un vil prix l'achalandage. Et en 1833, la Revue des Deux Mondes révélait que c'était ces opérations louches qui lui avait permis d'acheter la propriété de Pont-sur-Seine. De telle sorte que ce château de l'Aube, où le président de la République reçoit aujourd'hui ses ministres, d'où il correspond avec les gouvernements étrangers, ce château, messieurs les jurés, c'est une terre d'usure. J'aimais mieux encore les maisons de débauche où agonisait la royauté. Monsieur le Président, Monsieur Jaurès, je vous invite à vous modérer. Ces comparaisons... Monsieur Jaurès, je ne compare pas, Monsieur le Président. Je mets au-dessous. Monsieur Jaurès n'est pas plus tendre pour Casimir Perier, le grand ministre de Louis-Philippe, qu'il accuse d'avoir indignement exploité les meneurs mineurs d'Anzin et d'avoir trempé dans des affaires véreuses de fournitures de guerre. La révolution de 1830 avait été faite par le peuple. Il la dériva à son profit pour y chercher le triomphe de sa caste. Gérard Richard a écrit avec lui raison que cet ancien cavalier de la duchesse d'Angoulême, qui figurait dans les quadrilles royaux avant de renverser Charles X, ne fut pas un patriote. Je vous ai dit qu'il avait été intéressé dans la fourniture de fusils hors d'usage. Le patriotisme ne consiste pas à souffler de tous ses poumons dans un clairon fêlé. C'est ce même fils de Claude Perrier, le fondateur de la dynastie qui supprimait la caisse des veuves et des orphelins d'Anzin, de ces mineurs d'Anzin qui gagnaient 30 sous par jour en travaillant 15 heures, et dont 1800 étaient inscrits sur le registre des pauvres de la commune. Quand, en 1828, les magistrats se virent contraints de condamner ces malheureux, coupables de s'être mis en grève, ils ne purent s'empêcher, dans les attendus de leur jugement, de flétrir la cruauté des administrateurs de la compagnie qui déclaraient qu'ils aimeraient mieux voir la société dissoute que d'augmenter d'un sou le salaire des ouvriers. Voilà, messieurs les ouvriers, les traditions généreuses de la famille Perrier, des milliers d'exploités, se sont redits de génération en génération. Toute cette lamentable histoire d'un peuple de meurt de faim, et quand nous en parlons aujourd'hui, après un siècle de silence, ce sont ces indignations si longtemps contenues qui revivent en nous, qui éclatent en nous. Oh, ce n'est pas nous qui avons commencé la lutte, mais nous avons vu porter au pouvoir le dernier descendant de cette famille, comme un président de combat. Nous avons vu toute la réaction groupée autour de lui pour qu'il l'aida à renouveler le privilège de la banque que l'arrière-grand-père avait fondée et à écraser les mineurs d'Anzin s'ils osaient relever la tête. Puis tous les acquittés et les condamnés de Panama se sont accrochés désespérément à cette candidature, se souvenant que le futur président de la République était allé devant le jury de la Haute-Saône se porter garant de l'honorabilité de M. Benoît. Certes, je ne crois pas que M. Casimir Perrier ait trempé dans toutes ces turpitudes de Panama. Le cèdre ne sent pas une rose à sa base. Du haut de son immense fortune, M. Casimir Perrier n'a pas inspiré les blanches corolles psalmiques. J'en suis convaincu, mais tous ces tripoteurs se sont sentis protégés par la majesté de rapine séculaire dont le temps avait effacé la honte sans en abolir le profit. Voilà pourquoi M. Casimir Perrier est devenu l'homme de la République usurière. C'est cet homme que nous attaquons, non le chef de la République et de la France. Après la plaidoirie de M. Jaurès, le jury rapporte un verdict de culpabilité sans circonstance atténuante. M. Géraud Richard est condamné à 1 an de prison et 3 000 francs d'amende, maximum de la peine. Épilogue. 6 semaines après la condamnation de M. Géraud Richard, Paris, toujours frondeur, l'envoyait à la chambre. 1 mois plus tard, M. Casimir Perrier donnait sa démission de président de la République, rebuté de n'avoir pu restaurer en France le régime d'autorité écœuré des injures, des violences et des effroyables accusations portées contre lui par le Parti socialiste, sans que ni le Parlement ni les ministres eurent songé à défendre contre la diffamation et l'outrage la personne du chef de l'État. M. Félix Faure était élu président de la République, et le premier soin de son premier ministère, le ministère Ribot, était d'ouvrir par une loi d'amnistie la porte de Sainte-Pélagie à M. Géraud Richard. C'est en raison de ses conséquences politiques que nul ne pouvait prévoir que j'ai reproduit ici les débats du procès Géraud Richard et la plaidoirie de M. Jaurès.